France Inter. Mai 2013, Daft Punk publie Random Access Memories, quatrième et dernier album du duo. Dans une interview pour Les Inrecuptibles au moment de la sortie, Guy-Manuel de Homem Christo déclare « On a connu l'échec critique à chaque disque. Là, les journalistes ont l'air d'aimer, c'est louche, ça ne va jamais marcher. » 12 mai 2023, Random Access Memories fête ses 10 ans et l'album est déjà culte grâce à ses tubes, ses 5 Grammy Awards, l'ampleur de son ambition qui marie musique symphonique, rock, soul, funk, disco, électro, en gros, toute l'histoire de la pop. Pour la toute première fois, depuis la fin de leur collaboration, Guy-Manuel de Homem Christo et Thomas Bangalter racontent l'épopée de cet album en exclusivité pour cette émission. Grâce à eux, je vais aussi pouvoir vous faire écouter des documents jamais diffusés sur les coulisses du disque, tandis qu'une réédition paraît, avec des bonus copieux et passionnants. Au cours de cette heure, vous entendrez aussi Nile Rodgers, Florian Lagatta, ingénieur du son, et Julian Casablancas. Alors que l'intelligence artificielle commence à envahir nos vies, l'album dont on va explorer les coulisses raconte et espère que la technologie ne gagnera pas la partie. Bienvenue dans ce totémique hors-série 2013-2023, une histoire de Random Access Memories. Par ordre d'apparition, voici Thomas Bangalter et Guy-Manuel de Homem Christo.
Ce quatrième album, il a été enregistré dans des circonstances et un environnement très différent des trois premiers. Les trois premiers ont été enregistrés à la maison, dans un home studio, juste tous les deux, sans ingénieur, sans technicien, avec des invités, mais la majorité du temps, on l'a passé à deux, à expérimenter, à essayer des choses, à faire n'importe quoi, à réussir, à rater, à jeter. Et on était finalement très à l'aise avec ce processus.
C'est vrai qu'on a commencé dans une petite chambre, la chambre de Thomas, qui s'était transformée en studio. Et pendant les 3-4 premiers albums, on était vraiment tous les deux seulement avec nos machines. On jouait tous les instruments, mais c'était un peu un côté, je dirais pas amateur, mais vraiment home studio.
Mais on avait envie d'essayer quelque chose de différent pour ce quatrième disque.
Dans notre discographie, c'est un album qui est beaucoup plus tourné vers les musiciens, les instruments, la musique live enregistrée dans des bonnes conditions de studio traditionnels. Et c'est quelque chose qu'on n'avait pas vraiment développé jusque-là. Sur ce dernier album, on a eu Nathan East à la basse, Paul Jackson Jr., ce sont des gens qui ont travaillé avec Michael Jackson sur les meilleurs albums Off the Wall, Thriller, on a eu Paul Williams, bon, enfin il y a toute la liste des collaborateurs et c'est des gens qui étaient là dans les années 70-80. Mais c'était vraiment un clin d'œil à, comme souvent ça a été le cas depuis le début du groupe, un clin d'œil à notre enfance et à notre jeunesse et à la musique magique qu'on avait la chance d'écouter quand on était gamin. Bonsoir, c'est Guy-Man de Daft Punk pour Totemic hors série avec Rebecca Manzoni.
J'ai retrouvé des photos de 2008 en fait, tout début des sessions en fait.
Le début des sessions d'enregistrement ouais. De Random Access Memories.
Ouais.
Je vous présente Florian Lagatta. Il est ingénieur du son et l'un des artisans majeurs de l'album Random Access Memories. Je l'ai retrouvé au studio Gang, au sud-est de Paris, là où Thomas Bangalter et Guy-Manuel de Homem Christo ont leurs habitudes. Ils ont découvert le studio Gang en 2008. Florian Lagatta.
À la fin de la tournée E-Live, en fait, voilà, je pense qu'ils cherchent un endroit qui soit ailleurs qu'à la maison, finalement, parce que parents, avec de jeunes enfants, etc., il y avait besoin d'avoir un espace de création et de jeu qui soit un peu plus grand. On s'est rencontrés à ce moment-là, donc en 2008, dans un studio, là, à Paris, qui était vraiment un peu le temple du vintage, avec une console de 1974, des micros qui sont des années 40, ou plus récents, pardon, des années 70. Et petit à petit, je pense que le concept de renouer en fait, avec les grands studios de légende est arrivé au fur et à mesure, en fait.
Pourquoi il y avait cette envie de renouer avec la fabrication de la musique dans des studios de légende, justement ?
Alors, il y a une autre étape fondamentale qui est arrivée et qui a tout décidé, en fait, je pense. Donc on va y venir.
L'étape décisive qui décide Daft Punk à renouer avec la tradition d'enregistrer en studio, la voici. La bande originale de Tron, l'héritage, musique de film que Guyman et Thomas composent à la demande de Disney en 2010.
On leur a donné des moyens très importants pour travailler sur cette BO. Et notamment, ils ont pu collaborer avec un orchestre symphonique. Quand Thomas et Guyman reviennent à Paris, ils me disent « C'est assez incroyable ce qui s'est passé. On a travaillé avec cet orchestre, il y avait 100 musiciens. Et je pense que tout ce qu'on a fait jusqu'à présent, il faut qu'on change de fusil d'épaule et qu'on axe la production vers quelque chose de différent, de beaucoup plus humain. »
Thomas Bangalter.
Donc en début 2008, on rentre en studio pour commencer des séances d'enregistrement dans un studio d'enregistrement professionnel. C'est la première fois qu'on allait faire ça. Et on commence à faire des maquettes. Et après quelques mois, on fait une pause pour faire la musique de Tron. Et après cette aventure de Tron, quand on se remet à travailler sur les maquettes, on a le désir de transformer ces maquettes et d'en faire une vraie aventure collective avec des ingénieurs, des musiciens de studio, des musiciens invités, des interprètes, un orchestre, une chorale, des bruiteurs, de créer comme ça. C'était finalement très ambitieux. On était très enthousiastes, on voulait expérimenter plein de choses. Et là, le temps qui était d'habitude notre allié a pu peut-être à un moment devenir presque comme un ennemi parce que il s'est étiré, les séances d'enregistrement sont devenues un petit peu tentaculaires, ça partait dans tous les sens, on essayait plein de versions différentes, on a enregistré des parties d'orchestre pour toutes les chansons et on avait beaucoup de matériel, on accumulait de plus en plus de matériel sonore. Et ce qui nous a vraiment sauvés, j'ai l'impression, c'est de suivre notre intuition, de continuer à la suivre. Et à la fois, on avait vraiment conscience de la générosité de toutes ces équipes et de toute cette équipe. On n'avait pas envie surtout de décevoir tous ces gens qui nous donnaient tant, mais fallait qu'on puisse quand même garder... faire confiance à cette intuition qui dit bah là non finalement cette partie d'orchestre pour ce morceau on va pas la garder ou ce morceau on va finalement pas le terminer et c'était un vrai soulagement d'arriver à bon port parce que le processus il est devenu assez labyrinthique à un moment donné.
Voici plusieurs sessions d'enregistrement du morceau Give Life Back to Music avec un orchestre symphonique. Il a finalement été retiré pour la version finale. Thomas Bangalter.
À chaque disque, j'ai l'impression qu'on repartait vraiment à zéro, sans savoir où on allait arriver. Donc, il y a cette phrase dans le morceau Fragments of Time que j'aime beaucoup, qui dit « Our only plan is to improvise », donc notre seul plan, c'est l'improvisation. Et il y avait une vraie part d'improvisation dans Random Access Memories, parce que c'était comme un film sans caméra, juste avec des micros. On est un peu devenus des réalisateurs d'un film sonore. Et à la fois, on n'avait pas vraiment de scénario, donc c'était vraiment autour de l'improvisation. Et ça a créé ces accidents, et rétrospectivement, on peut se dire « Ah, on avait cette intention, on est arrivé dans ce genre-là. » Mais finalement, je pense qu'on n'avait aucune idée de ce que le résultat final serait, justement par rapport à cet aspect tentaculaire et un peu labyrinthique du processus. Après ces 4 ans de travail, pour garder cette spontanéité et cette simplicité, c'est vraiment les 2-3 derniers mois, pendant le mixage et un petit peu avant le mixage, où avec Guy-Manuel, on s'est assis tous les deux dans une petite pièce, un studio, et où on a créé le disque avec tous ces éléments et fait des chansons et simplifié les morceaux pour arriver à en tirer quelque chose de clair et de pas complètement inécoutable, en fait. Et c'était agréable, justement, de le faire dans l'urgence. Donc, à la fois, on avait passé des mois à tourner, et à la fois, le montage final, c'était impératif pour nous de le faire très rapidement, parce que sinon, on y serait encore, finalement, 10 ans plus tard.
Et alors, dans le processus de fabrication de la musique, si on écoute par exemple la bande démo qui vient de paraître là sur la réédition de Give Life Back to Music, on a l'impression que c'est des musiciens qui sont dans le studio et qui font un bœuf, en fait. Florian Lagatta, ingénieur du son.
Alors effectivement, avec ces musiciens de talent, un canevas est donné. Un canevas harmonique et une trame de morceaux. Et ensuite, on peut finalement un peu improviser, comme en jazz finalement. Les musiciens sont poussés pour s'exprimer au maximum. Voilà. C'est-à-dire qu'il y a une totale liberté d'interprétation pour que la personnalité de chacun s'exprime et ne soit pas comprimée. Souvent en pop, on peut demander aux musiciens de jouer quelque chose de très très précis, mais qui peut être un peu frustrant. Là, finalement, il y a une grande liberté de jeu, mais tout est toujours dirigé par Guy-Manuel et Thomas, qui vont écrire les parties ou chanter, mais ensuite l'interprétation va être sublimée par chaque interprète. Voilà. De Daft Punk, il y a toujours un concept sous-jacent. Une fois que le concept est là, Thomas et Guy-Manuel finalement ont des idées très personnelles, et à un moment il y a une synergie qui arrive, une synchronisation de leurs idées, et là le concept peut commencer et ensuite il est traduit en musique.
Alors comment on pourrait l'énoncer, ce concept, pour Random Access Memories?
Donc là, ce serait de redonner de l'humain dans la musique, c'est-à-dire célébrer vraiment le musicien, l'interprète, voilà, je pense, et donner beaucoup de sentiments aux choses. Et il y avait tout un processus intéressant, parce que venant finalement de la matière synthétique, il y avait justement une renaissance à faire, et là c'est là que c'est devenu très intéressant.
Comment on parlait de l'importance de la musique symphonique, notamment dans la composition de la bande originale de Tron. Quelle est la place de la musique symphonique dans cet album ?
C'était pour recréer donc ce côté assez hollywoodien finalement et classique des grands albums en fait. Voilà.
Mais d'ailleurs, il y a un côté très cinégénique. Je pense notamment à Beyond. Voici Beyond, 9e chanson de l'album Random Access Memories. On est au cinéma,
oui.
C'est le début du film.
Exactement.
Et il y a un lever des rideaux, quoi.
Exactement. Beyond, c'est vraiment l'ouverture du film au cinéma, avec l'envie de recréer un petit peu ce côté MGM.
Un designer sonore qui travaille habituellement pour le cinéma a participé à la conception de Random Access Memories, Guy Manuel de Homem Christo.
C'est vrai qu'on a travaillé effectivement avec un sound designer sur l'album qui s'appelle Gus Coven, qui est américain et avec qui on avait déjà travaillé sur notre film Electroma quelques années auparavant. C'est vrai aussi que je pense même pas seulement sur cet album ou sur Beyond, mais sur tout ce qu'on a fait depuis le début, en partant du premier clip Daft Punk, de Around the World. Dès le premier album, j'ai l'impression que on essayait d'avoir non seulement de la musique qui parle et qui soit dansante ou qui soit émouvante, mais il y a toujours comme une espèce de narration, d'histoire, ou au moins l'impression de rentrer dans un univers qui est particulier à chaque morceau. Si on prend par exemple Very Disco, c'est hyper cinématique pour moi, mais c'est la même chose pour Contact par exemple, ou sur plein d'autres morceaux. C'est vrai qu'on a toujours été très fans de cinéma, Thomas et moi, et qu'on a essayé de mêler la musique et les images depuis le premier projet en fait.
Mais dans le disque, il y a aussi un côté solaire, hédoniste. Ça vient d'où ça ? Parce que c'était pas vraiment l'ambiance à l'époque, quand l'album est sorti, en 2013. Ça correspond plus à l'humeur des années 70.
Effectivement, à cette époque, on a trouvé que ce qui nous touchait le plus, ou en tous les cas, ce vers quoi on voulait se tourner un peu de façon pas passéiste, mais on a toujours adoré la période des années 70, fin 60, 70 et début 80, et particulièrement autour de 75-80, comme un album comme Hotel California des Eagles, ou alors les albums de Fleetwood Mac, Quincy Jones aussi à l'époque, même si c'était un autre style plus funky. Mais disons qu'il y a une espèce d'âge d'or à mon goût. C'est cette période de ces albums mythiques, assez épiques de la fin 70, où les techniques d'enregistrement, les musiciens, les instruments, il y avait une conjoncture qui fait que je trouve que c'était un son assez universel et assez, en français ça serait éternel, mais timeless, 100 ans. C'est-à-dire que on écoute certains morceaux de Quincy Jones de 78, 79 jusqu'à 82 avec Michael Jackson Thriller, ou les Eagles, ou Steely Dan, ou il y a toute une liste de ces groupes-là à cette époque qui avaient un son très cristallin, très bien enregistré, avec des super micros, du super matériel. Et à mon goût, en tous les cas, c'est une période qui donne à la musique un côté intemporel.
Florian Lagatta, ingénieur du son.
Et qui plus est, comme ils avaient beaucoup utilisé des samples d'artistes, de funk, de disco, etc.
C'est-à-dire des échantillons de morceaux ?
Ouais, exactement. Ils se sont dit, finalement, cette génération qui nous a inspirés, bientôt elle ne sera plus capable de pouvoir jouer. Peut-être qu'on les oubliera même. Donc ce qu'on veut faire, c'est leur rendre hommage et les inviter sur notre album. C'était important de les avoir parce qu'ils sont vraiment les personnes les plus représentatives du style dont Daft Punk voulait rendre hommage, en fait. C'est une question de génération, finalement. C'est la génération d'avant qui devait être célébrée par la génération de leurs enfants, finalement.
Donc les Daft Punk.
Exactement.
L'idée, c'était non seulement célébrer cette période-là, plonger dans une mémoire et créer une filiation.
Oui.
Parmi les musiciens largement sexagénaires invités sur l'album Random Access Memories, il y a...
My name is Giovanni Giorgio, but everybody calls me Giorgio.
Giorgio Moroder, à qui Daft Punk consacre une chanson documentaire intitulée Giorgio by Moroder, où il raconte sa vie. L'histoire d'un Italien qui a commencé à jouer du piano dans les hôtels avant de faire les premières parties de Johnny Hallyday sur la Côte d'Azur. Avec ce morceau, Daft Punk rend hommage à l'éclectisme de Moroder, qui a d'abord fait carrière dans la pop en Allemagne, avant de découvrir le disco à l'âge de 40 ans, et de devenir l'un des pionniers de la musique électronique. Sur Random Access Memories, on trouve aussi le bassiste Nathan East, déjà cité par Guy Manuel de Homem Christo. Nathan East a joué avec Eric Clapton, Bobby Womack, Stevie Wonder ou encore Michael Jackson. Il y a Omar Hakim, batteur pour David Bowie, Chic, Miles Davis ou encore Michael Jackson. Paul Jackson Jr., guitariste qui a joué avec Elton John, Aretha Franklin, Herbie Hancock ou encore Michael Jackson. Et là, pour Random Access Memories, Paul Jackson Jr. a joué de la guitare sur plus de la moitié des morceaux de l'album. Par exemple, on l'entend sur Get Lucky. Vous savez, c'est Pharrell Williams qui assure le chant de Get Lucky. Voici ce qu'il racontait il y a 10 ans pile dans une des vidéos de présentation du disque.
I saw the robots at a Madonna party.
J'ai vu les robots à une fête de Madonna.
They were just like, well,
et ils m'ont dit, on est occupé pour le moment et on n'est pas du tout dispo.
Like, okay.
Je leur ai dit, ok, mais quoi qu'il arrive, sachez que si vous avez besoin de moi, même si c'est pour jouer du tambourin, je suis là.
So forth and so on. Yeah. Est-ce qu'on peut passer dans la cabine ?
Oui.
Retour au studio Gang à Paris avec Florian Lagatta, ingénieur du son pour l'album Random Access Memories. Donc là, on est dans la cabine d'enregistrement du studio Gang. On a un micro devant nous. C'est ici que la prise de voix de Get Lucky par Pharrell Williams a été faite ?
Exactement. Pharrell est venu à Paris pour interpréter Get Lucky. Et Get Lucky, tel qu'on la connaît, est vraiment... née ici en termes de chansons. Voilà. Elle était restée longtemps donc, un instrumental, et ensuite il a fallu la construire pour qu'elle devienne une chanson. Et c'est dès que Pharrell est arrivé que tout s'est agencé, en fait.
S'est passé cette prise de voix.
Pharrell est arrivé hyper excité. Il est arrivé directement depuis l'aéroport. Tout le monde était complètement jet lag. Mais ils étaient tellement excités qu'ils n'ont même pas voulu aller au check-in de l'hôtel. Donc ils sont arrivés au studio. Comme tout le monde était fatigué, ils m'ont demandé Flo, t'aurais pas un petit remontant ? Donc moi à l'époque, je tournais à la caféine en tablette. C'est fantastique. Je leur en ai proposé. Après avoir bien vérifié que ce soit bien naturel et sans effet secondaire, ils sont tous pris. Et là, ça a changé la face de l'histoire.
Voici le récit de Pharrell Williams, mis en ligne il y a 10 ans.
Parce que j'étais tellement épuisé à cause du décalage horaire, ils m'ont donné ce médicament effervescent qu'on met dans un verre d'eau. Ils m'ont expliqué que c'était un truc naturel, qu'il n'y aurait pas de descente. Et dès que je l'ai pris, j'ai eu un regain d'énergie de fou. Mais dans l'avion du retour pour les États-Unis, j'avais tout oublié.
Alors c'est Florian Lagatta, ingénieur du son, qui raconte la suite de l'histoire de Get Lucky.
Donc tout d'un coup, ça a vraiment fait effet. Et Pharrell s'est mis à avoir des visions de plages, de fêtes, la nuit tombée, etc. Et donc là, les mélodies sont arrivées. Thomas, Guiman et Pharrell ont proposé des mélodies. Chacun se très excité, comment dire, jumpait sur une nouvelle idée. Tout le monde, voilà, il y a eu un assemblage qui s'est fait très vite. Et Pharrell a eu une idée. Il dit, ah super, je vais courir au micro. Il a couru au micro. J'ai à peine eu le temps de faire un réglage sommaire. Et là, il a chanté le refrain qu'on connaît tous et qui est sur le disque. Voilà, il n'y a pas eu de deuxième prise. Cette première phrase qui a été quasiment improvisée est sur le disque.
C'est-à-dire que les paroles de ce tube ont été improvisées comme ça sur le moment, grâce à de la caféine en tablette.
Je pense grâce au talent de chacun et avec un effet vitaminé.
Donc les paroles ne sont jamais écrites en amont ?
Rarement. Les choses se font assez rapidement avec les idées qui jaillissent et l'accord de tout le monde. C'est-à-dire Guiman, Thomas, voilà, il suffit d'un regard pour que les choses avancent assez vite.
Est-ce qu'on peut écouter la piste vocale de Get Lucky du coup ?
La première chose qui a été chantée, c'est vraiment le refrain pour créer le mood. Et ensuite, on est parti sur les couplets.
Like the legend of the phoenix, all ends with beginnings. What keeps the planet spinning? The force from the beginning. Look. We've come too far to give up who we are. So let's raise the bar and our cups to the stars.
Là, dans ce pré-refrain, il y a plusieurs voix.
Les voix sont empilées, en fait. Et c'est lui qui imagine, en fait, l'arrangement vocal. Donc, une fois que la première voix a été faite, il va pouvoir faire des harmonies et donc se doubler lui-même et créer une partie de chœur, en fait. Pharrell a une idée très précise des arrangements vocaux, en fait. Ils sont construits de manière très, très claire dans sa tête, à chaque fois. Et donc, les choses vont très vite. Voilà, il dit, voilà, ok, je vais rajouter cette partie, je vais rajouter une piste, je vais changer ce mot. Voilà, tac. Il a une vision globale très précise.
So let's raise the bar and our cups to the stars.
Le point de départ de ce morceau, musicalement, c'était quoi ?
Le point de départ, je pense que c'était un motif de Wurlitzer, un piano électrique des années 60-70.
Donc c'est parti de ça.
Ouais.
Et après ?
Donc on imagine ce motif en boucle et ensuite la rythmique s'adjoint.
Avec la batterie et la basse de Nathan East. Et puis... la guitare de Nile Rodgers. Ça, c'est la clé de voûte du morceau, quand même.
Effectivement, sa signature fait groover tout le morceau, quoi.
Pourquoi Nile Rodgers ? Parce qu'il est présent sur trois morceaux. Qu'est-ce qu'il représente dans la galaxie Daft Punk, Nile Rodgers ?
Il est iconique pour son jeu de guitare, pour son goût musical, pour les productions qu'il a faites. Donc il est non seulement musicien, pour lui, pour les autres, mais aussi producteur. Il a fait des morceaux incroyables, avec David Bowie, mais aussi pour Madonna.
Nile Rodgers, cofondateur du groupe Chic avec le bassiste Bernard Edwards, donc Nile Rodgers, auteur et producteur de ce tube-ci.
Hello.
Hello. Hi, Nile.
Great. Hi. How are you?
Fine, and you?
Nile Rodgers arrive dans vos oreilles et sur mon écran d'ordinateur. Il est à Londres et nous parlons par Zoom. Pour Random Access Memories, Guy Manuel de Homem Christo, Thomas Bangalter et lui se sont retrouvés à New York dans un lieu mythique, le studio Electric Lady, le studio de Jimi Hendrix.
Et j'ai dit à Thomas, tu te rends compte, on est dans le studio où j'ai enregistré. C'est là où on a fait notre premier single. Il m'a dit, quoi ? Il ne m'a pas seulement demandé comment on fait un disque de Chic, il a aussi insisté pour que j'apporte ma guitare transparente en plexiglas, pour que j'ai à la fois ma guitare Hitmaker, la faiseuse de tube, et puis celle, vous savez, qui était transparente. Parce que quand les Daft Punk étaient jeunes, ils nous voyaient jouer avec les deux. Ce qui s'est passé, c'est que ils m'avaient joué une chanson. Et moi, les démos, c'est pas tellement mon truc. J'avais vraiment pas écouté grand-chose avant d'arriver au studio. Et quand je suis arrivé au studio, j'ai écouté la chanson. Et rapidement, j'ai bien compris où ça devait aller. Je trouvais que leur groove n'était pas encore en place. Alors je leur ai demandé de rendre muets tous les instruments pour que je puisse jouer avec la batterie seule. J'avais bien le motif en tête et j'avais envie de jouer en mettant le groove en place à ma manière.
Est-ce que vous saviez tout de suite sur combien de morceaux de l'album vous alliez jouer ?
Non,
je pensais que c'était une.
Mais
ce qui s'est passé, c'est que après l'avoir enregistré, ils ont trouvé que ça marchait tellement bien. Ils m'ont dit, tu pourrais pas faire la même chose pour d'autres chansons. Et donc, j'ai travaillé sur d'autres. Même chose, retirer tous les autres instruments pour trouver ma partie, mon rythme, et pour proposer un groove. Mais je pense que la première a dû être Get Lucky, parce que c'est celle, je crois, pour laquelle le groove ne me semblait pas correct. Et Daft Punk, je pense, apprécie vraiment ce que c'est que le groove. Et si jamais vous trouvez le groove simple, avec un ou deux instruments, que le funk est là, ça fonctionne pour eux.
Mais trouver le groove simple, j'imagine que c'est pas facile. Qu'il faut jouer peut-être longtemps, faut faire beaucoup de jam sessions.
That's the funny part. So
c'est ça qui est marrant. Oui.
When we first started,
quand on a commencé au tout début,
what the song was, whatever the first song that I played,
quand j'avais vraiment compris la structure de la chanson, j'ai écrit comme ça un plan, un peu de ce que j'allais faire. Et Guy Manuel, il me regardait un peu bizarrement parce que je commençais toujours un petit peu à inventer des choses. Et il ne se rendait pas compte que j'étais en train d'être à la recherche du groove parfait à travers plein d'essais. Et il était cool, mais je crois qu'il commençait à être un petit peu en colère. Il sentait qu'il y avait de la tension de sa part. Et puis à un moment, quand je me suis rendu compte que voilà, ça y est, voilà où j'allais.
They got it.
Là, ils ont compris, ils ont pigé.
Like the legend of the Phoenix, all ends with beginnings. What keeps the planet spinning? The force from the beginning. Your gift keeps on giving.
what is this I'm feeling? If you wanna leave, I'm with it.
Nile Rodgers sur France Inter.
La discographie de Daft Punk, elle a très largement participé au retour du disco. J'aimerais que vous précisiez ce que représentait cette musique à l'époque, quand elle est née, c'est-à-dire dans les années 70, Nile Rodgers.
Well, that kind of music politically represented
C'était surtout
everything.
I mean, politiquement quelque chose qui représentait
from,
tout.
Women's rights,
le droit des femmes,
to people of color,
le droit des noirs,
poor people,
les pauvres.
It was just, you know, sexual identity issues.
Sur les problèmes et les questions d'identité sexuelle, tous ces problèmes-là de l'époque. Et c'est pour ça, je crois, que dans mon cœur, je crois que le disco a été la musique la plus politique. Parce que tout le monde s'est trouvé rassemblé. Et regardez aujourd'hui, le monde est divisé, les gens sont divisés. Qu'est-ce qui se passe? Mais pendant les années disco, tout le monde se rassemblait. Tout le monde recherchait la paix, l'harmonie. On cherchait l'amour, on cherchait le sexe, l'excitation, le plaisir. On avait envie de célébrer la vie. Il y a tellement de choses en Amérique qui représentait le progrès et la liberté. Et on avait envie de célébrer ça dans la musique. C'était un monde plein d'espoir. Un monde qui se tournait vers l'avenir, vers une humanité qui se ferait encore plus humaine.
En fait, Get Lucky, c'est la célébration d'un paradis perdu. Et le retour du disco aujourd'hui, c'est ça, c'est aussi la nostalgie d'un paradis perdu, en fait. Get Lucky, c'est ça, non ?
It very well could be.
C'est bien possible.
You know, because I've been playing Get Lucky now.
Moi, je joue Get Lucky.
Ever since I performed it with Daft
depuis
Punk,
que je l'ai interprété aux Grammys avec Daft Punk. Je ne l'ai pas joué, moi, sans qu'eux, ils l'aient joué en live. Et c'était une époque où on m'avait diagnostiqué un cancer. Et Get Lucky, c'est un morceau qui a été comme un traitement pour moi, qui m'a soulagé. Comme un message destiné à moi-même, que Daft Punk et et Pharrell et Daft Punk ensemble avaient créé une situation qui m'a permis de me défaire du cancer à deux reprises. Et ce morceau, j'en ai fait le mien. Je me le suis approprié. Et je le fais, je le joue différemment que Daft Punk, mais les gens aiment ça. Et ça me fait du bien.
Alors le groove est au cœur de votre musique, mais quand on vous entend jouer, je trouve qu'il y a aussi une idée d'atteindre la douceur et la délicatesse aussi dans votre façon de jouer de la guitare, non ?
Absolument. Et je suis ravi que vous le reconnaissiez. Mes enregistrements, je les fais avec un casque sur les oreilles. Et d'habitude, je joue en même temps avec un groupe. J'ajuste le volume pour que le son de ma guitare soit assez fort. Mais je peux jouer avec douceur. Et ce son-là, il est devenu partie intégrante de ma signature. C'est un son délicat qui permet aux notes aiguës de la guitare d'exister au premier plan. Les basses sont en retrait naturellement et les aiguës, elles scintillent parce que je joue très délicatement. Je ne joue pas du tout en force.
Beaucoup d'artistes français. Il y a Daft Punk, il y a Claude Nougaro, Étienne Dao, Sheila.
Yes.
Pour quelle raison?
We were called Chic.
Ok. Parce que vous vous appelez Chic. Merci beaucoup, Noël Rodgers. Thank you.
Bye bye.
Alors, arriver à ça, ça passe par quoi? Ça passe par quelle recherche? Réponse de Florian Lagatta, ingénieur du son pour Random Access Memories.
Il y a beaucoup d'expérimentation, d'improvisation. On a passé quelques mois, finalement, à travailler la matière des voix de robots, en fait. Et donc, tous les essais sont possibles et imaginables. Tous les essais ont été faits, en fait, pour donner le plus d'émotions possible. Mais c'est surtout l'émotion, je pense qu'on la retrouve surtout dans The Game of Love et Within, où c'est un peu une complainte robotique.
Voilà. Oui, qui est une balade. Ouais. C'est-à-dire qu'en plus, là, dans le cas de Within, il fallait trouver la voix qui puisse se mêler au piano, qui est très très douce.
Et sans travailler trop sur le pathos, il fallait qu'il y ait une vibration humaine qui donne beaucoup d'émotions. La complainte du robot qui a une âme. There are so many things that I don't understand. There's a world within me that I cannot explain. Explore, but the doors look the
Todd Edwards, Panda Bear, Pharrell Williams et Julian Casablancas sont les interprètes de Chair et d'Os de Random Access Memories. Et pour ce qui concerne les deux derniers, Pharrell Williams et Julian Casablancas, le disque a été l'occasion d'essayer de nouvelles choses vocalement. Julian Casablancas y chante beaucoup plus aigu que d'habitude et Pharrell Williams change de registre. D'où cette question à Guy Manuel de Homem Christo. Est-ce que vous les avez guidés ou encouragés dans ce sens ?
On les a pas du tout guidés, encouragés, c'est sûr, mais je pense qu'il y a quelque chose qui se passe en général, qui se passait quand les collaborateurs venaient travailler sur cet album et même avant ça. C'est-à-dire que en général, on travaille avec des gens qui connaissent notre musique et qui souhaitent y participer. C'est la même chose de notre côté et ça fait que quand on se retrouve dans la même pièce, assez naturellement, la musique sort d'elle-même, et que ça soit le cas pour Pharrell, pour Julian ou pour Abel du groupe The Weeknd avec qui on a travaillé plus récemment, c'est à chaque fois sur place, en studio, quand on leur fait écouter en général le morceau sur lequel on voulait les avoir, quand on leur fait écouter pour la première fois, il se passe une réaction un peu chimique où tout de suite, en général, ils ont réussi à trouver la mélodie, les paroles, il y a une dynamique comme ça qui se crée. Et souvent, en plus, ils veulent, comme je disais, ils veulent rentrer dans notre univers un peu et partager ça avec nous. Et c'est quelque chose de chimique, en fait. Et jusque-là, ça s'est toujours super bien passé. Même chose avec Kanye West, quand il était dans le studio. Et même une fois, on lui a juste sorti un micro parce qu'il commençait déjà à chanter, à crier dans le studio. Et il fallait qu'on lui trouve tout de suite un micro pour choper le moment en vol, quoi. C'est assez fascinant et assez magique ce qui peut se passer quand les artistes se rencontrent comme ça.
Et pourquoi vous avez sollicité Julian Casablancas ? D'ailleurs, parmi tous les interprètes, c'est le seul dont vous avez modifié la voix.
Alors, on a sollicité Julian parce qu'on a toujours été des gros fans de rock. Et c'est vrai que pour moi, c'est un peu l'héritier direct de groupes que j'adore, de groupes surtout de New York dans les années 70, comme les Ramones, Suicide, Richard Hell and the Voidoids, Blondie, toute cette scène punk rock new-yorkaise. On avait vraiment l'impression d'avoir la chance de pouvoir travailler avec quelqu'un qui était directement dans cette lignée que j'adore. Et puis les Strokes, en plus, qui est un des groupes un peu après notre génération, mais qui était vraiment un groupe d'un très haut niveau à mon goût. Et c'est vrai que c'était un peu une super chance de bosser avec lui. Sa voix, en plus, est hyper intéressante. Il peut aller très grave et très fort, avec une voix très rauque et menaçante, et dans le même morceau, monter dans les aigus. Et de façon hyper contrôlée. Peut-être qu'on le voit pas tout de suite parce que c'est un côté un peu punk rock comme ça, mais il a une super voix hyper intéressante. Et là, c'est lui qui a décidé de nous demander de trafiquer sa voix. Alors je sais pas s'il avait fait beaucoup de fois avant, mais là, c'est vrai qu'il y a un côté digital un peu robotique. Je pense que c'était un peu un clin d'œil à nous, en fait, et il voulait prendre une sorte de risque. Il nous a proposé ça dès le début. Il voulait transformer sa voix pour faire partie de l'aventure Daft Punk, apparemment.
Julian Casablancas est la voix du morceau intitulé Instant Crush sur Random Access Memories. Et il interprète Infinity Repeating dans les bonus de la réédition de l'album. Dans une interview inédite à ce jour, réalisée par Warren Fu, réalisateur de plusieurs des clips des Strokes et de Daft Punk, Julian Casablancas raconte la naissance d'Instant Crush.
I sang the demo and
j'ai commencé à chanter sur la maquette.
mais j'ai jamais eu une aussi grande ambition. Parce que quand même, ils travaillent avec les meilleurs. J'ai dit, c'est Stevie Wonder qui devrait chanter ça. Il m'a répondu, non, c'est pour toi. Ils m'avaient dit que le thème du morceau serait un amour de vacances, un truc sur l'innocence de la jeunesse. J'ai dit ok, j'ai pigé. Paul Williams avait écrit un texte et moi je me suis lancé. Je crois que j'ai écrit et proposé plein de paroles qui allaient dans leur sens. Et fabriquer une chanson, parfois, ça passe par des trucs bizarres. On cherche avec du charabia. Ils m'ont demandé ma voix des Strokes. Et j'ai dit non. Je veux être votre cyborg. Travailler avec eux, ça a été une bouffée d'air frais. Ça m'a montré ce qu'une collaboration devrait être. C'est-à-dire qu'on s'apprécie, on se nourrit les uns les autres. Et ils sont vraiment marrants. Thomas, c'est le technicien, super enthousiaste. Il tripote les boutons de sa console. Alors que Guyman, c'est plutôt le prototype du français grognon. Mais il a vraiment très bon goût. Infinity Repeating. C'était la bonne chanson pour mettre un point final à Daft Punk pour toujours.
What do you want from me?
Vous voulez que je vous dise quoi?
You want the real or you want the lie?
La vérité ou le mensonge?
You can't handle the truth.
La vérité est difficile à entendre.
Voici Infinity Repeating qui figure donc dans les bonus de la réédition de Random Access Memories. I was crossing the border. Any
Cet album s'inscrit vraiment entre deux générations.
Retour derrière la console du studio Gang avec Florian Lagatta, ingénieur du son.
Cet album s'inscrit vraiment entre deux générations. Il rend hommage à la génération passée, mais a à cœur d'offrir de la matière pour la génération suivante en termes de matière musicale à sampler. Chaque mesure extraite de cet album peut être bouclée.
Donc en fait, c'est pour les générations futures, il y a ce côté « allez-y, piochez dedans ».
Voilà. C'est une banque de sons pour des remixes futurs et pour servir de sample de départ à un morceau dans le futur. Voilà.
On peut prendre un exemple de mesure là, qui peut tourner en boucle.
Par exemple, je prends une mesure au hasard de guitare.
Voilà, ça c'est une seule mesure de guitare qui tourne sur elle-même en fait.
Et ça, on peut prendre n'importe quel morceau et faire une boucle.
Il y a un côté, on passe la main quoi.
Exactement. C'est important de montrer que la musique est quelque chose qui se partage, qui se donne et qui doit évoluer.
Et qui se transmet.
Transmission, et donc finalement on passe la main ensuite à une génération qui elle aussi va être inspirée par la musique de la génération passée et les choses sont en constante évolution et c'est ça qui est beau et sain. C'est très humain.
Thomas Bangalter.
C'était un vrai soulagement et une vraie joie de faire découvrir les morceaux terminés aux différents participants qui nous avait fait confiance, mais voilà, on avait enregistré avec Nile Rodgers, avec Pharrell Williams, avec Giorgio Moroder, avec Paul Williams, Todd, avec Noah, Panda Bear, DJ Falcon, et ils nous avaient fait confiance, on avait ces séances d'enregistrement, et on est reparti dans le montage, dans la production, dans le mixage, et de leur faire écouter le résultat final et de ne pas les décevoir. Pour moi, c'était vraiment important. Et j'étais vraiment... C'est des beaux moments, en fait. C'est les souvenirs les plus forts que je garde. Voilà, c'est la première fois qu'on a fait écouter Get Lucky à Pharrell. La première fois qu'on a fait écouter Touch à Paul Williams. La première fois qu'on a fait écouter Giorgio, c'était des moments très émouvants et très forts que j'oublierai jamais.
Touch, sweet touch. You've given me too much to feel, sweet touch. You've almost convinced me I'm real.
I need something more. I need something more.
C'était un totémique hors série 2013-2023, une histoire de Random Access Memories, Guy Manuel de Homem Christo.
Ben, j'ai l'impression que ce sont 10 années qui sont passées très vite. Et quand j'en parle autour de moi et que je dis à mes amis « Get lucky à 10 ans, tu te rends compte ?» Personne ne me croit en fait. C'est vrai qu'il s'est passé plein de choses depuis et que ça s'est peut-être un peu accéléré, mais ça donne l'impression que c'est vraiment pas loin en arrière. Au niveau du style musical de l'album, qui est quand même tourné donc, vers ce côté funky fin 70, c'est un style de musique qui est toujours présent à la radio, dans les fêtes, dans les anniversaires, les mariages, que ça soit de la funky musique de Michael Jackson à Prince. C'est un style musical qui n'a pas disparu. Donc, pour moi, il y a ce côté intemporel dont on parlait, qui est toujours là. Bah, pour finir, je voulais vraiment dire que je suis très touché par l'accueil que cet album a eu à l'époque. C'est un album qui était finalement le dernier, qui regroupait plein d'influences et qui nous a permis de travailler avec plein d'idoles qu'on avait quand on était jeune, que ce soit des chanteurs ou des musiciens, ou des techniciens, des ingénieurs, plein de légendes vivantes qui nous ont vraiment aidé à mener à bien cette aventure.
Merci à Guy-Manuel de Homem Christo et à Thomas Bangalter d'avoir participé à ce récit et de m'avoir permis d'utiliser et donc de vous faire écouter des documents sonores totalement inédits. Merci à Florian Lagatta pour l'accueil au studio Gang, où j'ai eu l'impression d'être une gamine dans un magasin de jouets fantastique, alors que c'est même pas Noël. Merci à Jocelyn Perrotin, directeur de la musique de France Inter, pour avoir la générosité de me mettre sur les bons coups. Merci à Emmanuel de Burtel, patron du label Because, et à Julien de Borger. Merci à Coy Nguyen, my partner in crimes, réalisateur de ce totémique hors-série. Merci à Lola Costantini pour le montage, la traduction, et à Siméon Brand pour le coup de main précieux. Merci à Harold Manning pour les traductions. Merci à Pascal Vestrelin, Clément Bermain, Antoine Teboul et Pauline Laverdure qui ont assuré la technique. Et un merci spécial et immense à Emmanuel Perrot.